Bonjour tout le monde. Avant tout, je voudrais présenter les salutations des églises France Mission à Marseille. Il y en a trois. Et je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je connais Jean et Meg Glass depuis longtemps. Et aussi, je voudrais venir personnellement pour vous remercier pour avoir collaboré avec nous à Marseille dans l'évangélisation de ces HLM et pour avoir envoyé James et Nabil. Et comme ça, chacun de vous, vous avez un part dans le ministère à Marseille. Et c'était un moment super. On avait le maire du secteur qui est descendu pour nous voir et elle était étonnée de voir tant d'enfants dans un HLM qui se comportaient tellement bien et de voir tout était bien organisé et elle était étonnée. Et ça a fait une grande ça a augmenté la réputation de l'Église dans notre secteur. On avait les garçons de 10 à 17 ans. Et surtout entre Nabil le fort et James le grand, on n'avait pas de problème avec les petits-enfants. C'était un moment très fort et ils nous ont aidés avec la traduction. On avait deux membres de l'équipe qui sont venus de Los Angeles qui ne parlent pas le français. Donc, c'était bien d'avoir James et Nabil. Et je vous remercie pour les avoir envoyés pour nous aider. Je connais John Glass depuis 25 ans ou quelque chose. Nous sommes partis en mission avec la mission team d'abord. Et je me souviens, nous sommes allés à l'école de candidature et John nous a regardé. Un jour, j'étais en train de faire quelque chose. J'avais un couteau suisse, comme chaque bon missionnaire. Et Jean m'a dit, ah, mais vous êtes les vrais missionnaires. Vous partez en Afrique et même toi, tu as un couteau suisse. Moi, je pars en France. Ce n'est pas la vraie image d'un missionnaire. Et donc, le jour de son départ pour France, je lui ai offert un couteau suisse. Comme ça, Jean pourrait être un vrai missionnaire. Et c'était super chaque fois quand il m'invite à venir ici. Je suis très contente et ma femme envoie ses regrets. Dimanche passé, elle s'est tournée le genou et elle a cassé quelque chose, déchiré quelque chose et donc elle a du mal à marcher. Mais elle aussi, elle aurait être heureuse d'être avec nous ce matin. Je sais que vous êtes en train dans le groupe de maison d'étudier l'évangile de Jean. Mais quand même, on va regarder une histoire de cet évangile. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite de les ouvrir à chapitre 8. Pour vous qui sont dans les groupes de maison, ça sera une bonne révision. Et pour les autres, une bonne chance de regarder cette histoire. C'est l'histoire de la femme adultère. C'est quelque chose de bien connu. Et on va regarder verset 1 à verset 11. Et avant de regarder ce passage ce matin, un peu serré ici, n'est-ce pas? C'est bien parce que d'habitude, je promène partout dans l'estrade, donc ça me garde devant le micro. Avant de regarder ce passage ce matin, si vous avez une Bible d'étude et souvent dans les autres Bibles, il y a quelques astérisques devant le passage qui disent que ce passage n'est pas inclus dans les manuscrits les plus anciens. Et presque tous les théologiens, les traducteurs de la Bible sont d'accord que oui, cette histoire n'était pas ici dans l'évangile de Jean d'origine. On ne sait pas qui l'a écrit, si peut-être c'était Jean ou un autre apôtre. Mais en regardant les manuscrits, on dit d'origine, ce n'était pas à ce lieu dans l'évangile de Jean. Et je suis d'accord. Mais tous les théologiens, tous les pasteurs, tous les commentateurs sont d'accord que c'est une histoire vraie de la vie de Jésus. De cela, il n'y a pas de désaccord. Et donc, nous pouvons les étudier avec confiance. Et dans ce passage ce matin, nous allons voir le piège des pharisiennes, la sagesse de Christ, la grâce de Dieu et le prix cher du pardon. Regardons ce passage, je voudrais lire les premiers quatre versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Au commencement de ce chapitre, nous trouvons Jésus encore à Jérusalem. Il a passé la nuit à la montagne des Oliviers. Probablement, il a passé la nuit en priant Dieu. Le matin, comme d'habitude, il enseignait dans le temple et comme d'habitude, il était entouré d'une grande foule de gens. Tout à coup, il arrivait des gens qui se bousculent dans la foule. C'étaient les leaders et les juifs. Ils tiraient une femme avec. Avant de continuer, passons un instant pour regarder cette femme devant Jésus. Regardons cette femme qui est là devant nous. D'abord, la femme n'a pas nié l'accusation. Elle n'a pas crié, « Non, ce n'est pas moi, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. » Elle était silente. Elle avait été prise en flagrant délit. L'acte secret qu'elle et son amante avaient caché est maintenant bien évident devant tout le monde. Ce qu'ils avaient fait dans les ombres est maintenant révélé en pleine journée. Tirée de son lit presque nu par les dirigeants religieux, elle était poussée et promenée dans les rues vers le temple. Pas de possibilité de se cacher. Elle est mise en exposition devant la foule qui chaque jour visite le temple. Le temple se trouvait sur une colline en Jérusalem, donc c'est un peu hors de la ville. Si vous avez jamais visité Jérusalem, vous connaissez, ce n'est pas, elle a été tirée par les rues, ce n'est pas proche dans son quartier. Elle est mise en exposition devant tout le monde, jetée comme un sac de patates aux pieds de Jésus. Devant Jésus, elle n'a pas essayé de fuir. Elle reste entre ses accusateurs et Jésus. Nous voyons dans la Bible, je crois que vous êtes en train d'étudier les 10 commandements, que l'adultère est quelque chose de sérieux. L'adultère est bien condamné dans la Bible. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, le mariage est considéré comme une alliance très forte. C'était plus fort qu'une amitié forte. Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui arrive entre l'homme et la femme, qui forme une relation un peu mystérieuse, une sorte de mélange d'esprit. Les deux seront un. Ils se sont attachés l'un à l'autre. Il y a une confiance intime entre le mari et la femme. Dieu a même exprimé sa relation avec Israël et aussi avec l'Église dans le sens du mariage. C'est la relation la plus intime, la plus sacrée qui existe. Je suis sûr que Jean a exprimé quelques passages qui parlent du mariage. En Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cette union mystique. Matthieu, que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. En Malachie, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je haïs la répudiation, le divorce, dit l'Éternel. En Exode, tu ne commettras point d'adultère. En Lévitique, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Assez sérieux. C'est la base de la communauté, et l'adultère, l'infidélité, la brise, la casse. Alors Dieu a dit que celle ou celui qui le brise est digne de mort. Assez sérieuse. Cette femme savait qu'elle était coupable, et maintenant elle attendait que le verdict et les coups de pierre. Mais revenons au verset 5. Les scribes et les pharisiens disaient, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. En verset 5, il y a quelque chose. Comme pasteur, souvent les gens viennent auprès de moi, ils disent s'il y a un petit problème ou s'il y a une discussion dans l'église, souvent les gens viennent auprès de moi, comme pasteur, ils disent « Pasteur, que dis-tu de cette situation ?» Ma première réponse est toujours la même. Peu importe ce que j'en pense, peu importe ce que je dis, la chose importante, c'est la question, la vraie question est, qu'est-ce que la Bible dit? Que dit-elle la Bible? Mais ici, ils disent, toi donc, que dis-tu? Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Dans le premier point, nous voyons ici, c'est le piège des pharisiennes. Nous voyons le piège tendu. Les historiens de cette époque-là, les historiens juifs, disaient que les dirigeants n'ont jamais mis en application les lois contre l'adultère. Pourquoi? Parce que presque tous les dirigeants juifs étaient impliqués dans l'adultère eux-mêmes. Ils n'ont pas osé l'appliquer. Alors on peut dire que s'ils étaient vraiment sincères de garder la loi de Moïse, ils auront exécuté l'un et l'autre. Alors selon une application stricte de la loi, ils avaient raison. La femme méritait la mort, mais de garder la pureté d'Israël n'était pas l'intention de leur cœur. Elle n'était qu'un pion entre les mains des pharisiennes. Ces juifs cherchaient à s'en servir pour piéger Jésus. Mais Jésus savait que c'était un piège. Il savait déjà. Mais comment? D'abord, on pose la question, où était l'homme? Pour faire l'adultère, il faut deux. Où était l'homme? Lévitique nous a dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Où était l'homme? Il n'était pas là. Ah. Jésus regarde, il commence à constater qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas ici. Si cette femme a été prise en flagrant délit, l'homme aurait dû y être aussi. Mais il n'était pas là. Il y avait quelque chose de soupçonneux dans cette situation et Jésus le savait. Regardons le piège aussi que les dirigeants juifs ont tendu. Si Jésus a dit, je ne veux pas qu'on applique la loi strictement dans ce cas-là, laissez-la vivre. il aurait prouvé qu'il n'était pas le vrai Messie, parce qu'il contredisait la loi de Dieu, la loi de Moïse. Il n'était pas le vrai Messie venant de Dieu. Mais aussi, s'il a dit, ne le lapidez pas, alors il aurait été disqualifié, parce qu'il avait déjà dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. S'il a contredit la loi, les Juifs auraient dit, « Ah, tu n'es pas venu de Dieu, parce que tu contredis la parole de Dieu. » C'est toujours la norme pour juger le message de quelqu'un, si ça conforme à la parole de Dieu. Au contraire, si Jésus a dit « Oui, lapidez-le, tuez-le », deux choses auraient arrivé. D'abord, la foule aurait été choquée. Jésus a constamment prétendu être l'ami des pécheurs. Il a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Les justes n'ont pas besoin de... ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. C'est les malades qui en ont besoin. Jésus est venu pour les pécheurs. Il avait toujours montré de la grâce et l'amour envers ces gens. Donc s'il a dit, allez-y, tuez-le, les gens auraient dit qu'il n'était pas qu'un menteur, il n'est pas l'ami des pécheurs. Deuxièmement, c'était interdit aux Juifs de faire exécuter n'importe qui. Israël était un pays occupé par les Romains, et nous voyons surtout devant Pilate, les dirigeants juifs ont dit, nous n'avons pas le droit d'exécuter quelqu'un. Donc si Jésus a dit, oui, lapidez-la, et la foule avait fait, les Romains auraient intervenu, et tout le monde aurait mis le blâme sur Jésus. C'est lui qui a incité cette exécution. Et il se trouverait rapidement face à Ponce Pilate et la justice romaine. Bon piège. Il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Les Juifs pensaient, ah, nous l'avons. Il ne peut rien faire. Il va perdre sa réputation devant ici, au milieu du temple, devant tout le monde. Il va perdre sa réputation. Il sera vu comme une fraude. Et vous, comment vous auriez répondu? Oui ou non? Combien oui? Combien non? Les Juifs pensaient qu'ils étaient devant un homme, et selon la sagesse humaine, Jésus ne peut rien faire. Alors regardons la sagesse de Christ. Nous lisons verset 6, « Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit, je suis d'accord avec vous, mais le premier, celui qui n'a pas de péché, il jette la première pierre. On peut poser la question, qu'écrivait-il Jésus sur la terre? En vérité, on ne sait pas. Il y a ceux qui disaient que, Jésus, il commence à écrire le péché, ce qu'ils avaient fait en cachette. Il écrivait leur péché, ce qu'ils avaient caché. C'est facile d'imaginer que Jésus, qui connaissait leur cœur et leurs actes, a pu écrire quelques mots dévoilant leur péché. Simon Baraba, hier, dans la forêt avec Madame Cohen. La semaine passée, dans le grange avec la voisine. L'argent du temple de la semaine passée, toutes les offrandes, dans ta poche maintenant. On ne sait pas exactement, mais on peut imaginer, surtout lorsqu'on continue à lire que nous voyons que leur conscience était piquée. Alors, réalisant qu'eux aussi seront exposés en public aux critiques de la foule, ils se sont retirés. Peut-être la Bible n'en dit rien, mais selon la loi de Moïse, celui qui devrait jeter la pierre, c'était le témoin oculaire, ceux qui avaient vu cette femme en flagrant délit. Peut-être l'homme adultère était l'un d'eux. Peut-être Jésus aurait dit, mais si vous voulez tuer les deux, pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur ici, cette pharisienne, avec elle? Nous ne connaissons pas les détails, c'est peu importe, mais au moins nous constatons que leur hypocrisie était exposée par ces paroles. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Ils n'attendaient pas une telle réponse. Avec cette réponse, Jésus les a dévastés. Il n'a pas minimisé le péché de cette femme. Il n'a pas entré dans un débat concernant la loi de Moïse. Il n'a pas essayé d'expliquer le septième commandement. Il n'a pas contredit la loi romaine. Il leur a simplement répondu, « Si vous vous considérez digne de juger cette femme, vous devez réexaminer vos propres vies. » En verset 9, nous regardons la réaction des Juifs. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Après avoir accusé cette femme, eux aussi se trouvaient accusés par Jésus et leur propre conscience, mais leur dignité les a forcés de fuir. Au lieu d'admettre leur faute, leur culpabilité, au lieu de se confesser et de recevoir du pardon, ils se sont enfuis. Après que les chefs juifs sont partis, la femme s'est trouvée seule avec Jésus. Face à face avec Dieu. Et je crois, 1000 questions tournaient dans sa tête. Qu'ira-t-il faire? Dois-je fuir? Comment? Tout le monde est parti. C'est ma chance de partir aussi. Me frappera-t-il, lui? Je vous demande de personnaliser cette situation. Vous êtes là devant Jésus. Et avez-vous jamais pensé comment il sera de se trouver face à face à Dieu? Que dirait-il? Est-ce qu'il va me condamner pour mes péchés que je n'ai pas confessé cette semaine ou avec le péché secret que je ne veux pas dévoiler? Que dirait-il? C'est une bonne question. Que dira-t-il Jésus face aux pécheurs de ce monde? Mais regardons la réponse en verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, madame, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Toutes ces questions qu'elle craignait. Et Jésus dit, « Madame, où sont tes accusateurs ? Il n'y a personne qui t'accuse ?» Je crois qu'elle était un peu confuse. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Et maintenant, il pose des questions. Et nous voyons son réponse. « Non, Seigneur. » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Selon la loi qui la condamne, Dieu a dit qu'il fallait deux ou trois témoins pour condamner quelqu'un. Alors, lorsque tous les pharisiens se sont partis, il n'y est resté personne. Pas de témoins. Personne pour l'accuser, et sans témoin, sans accusateur, le tribunal ne pourrait pas avoir lieu. Alors, lorsque tous les pharisiens se sont partis, il n'y est resté personne comme témoin, personne pour l'accuser. Et la femme, elle n'a pas fui. Elle a resté devant Jésus. Elle ne s'est pas retirée comme les chefs juifs. Cette femme n'est pas la personne centrale de cette histoire. Cette histoire s'agit de Jésus. L'évangile de Jean a été écrit pour que nous sachions cette langue, que Jésus est le Fils de Dieu. Même après 20 ans, c'est difficile. Mais il n'y a pas beaucoup de détails sur la femme. La Bible ne dit pas grand-chose parce que c'est concentré sur Jésus. Mais quand même, regardons sa réponse. « Non, Seigneur. » Il n'a pas dit simplement « Non, monsieur. » « Non, personne. » Elle a adressé Jésus comme Seigneur. Nous constatons aussi qu'elle n'a pas nié son péché. Elle n'a pas dit, ce n'était pas moi. Non, mais regarde les autres, ils avaient fait pire que moi. Elle savait qu'elle était dévoilée devant Jésus. Elle ne peut rien cacher. Combien de gens, combien de nous ici diront, mais je n'ai rien fait. Ils sont aussi coupables que moi. Seigneur, tu sais que les autres ont fait de la bêtise aussi. Je ne suis pas le seul. Vous qui êtes des enfants, si un enfant fait une bêtise et est dévoilé, qu'est-ce qu'il va dire? Maman, ma sœur aussi, elle a fait la même chose. Mais maman, j'étais avec plusieurs. Je ne suis pas le seul. C'est lui qui l'a fait. Je n'ai fait que le suivre. On donne toujours les excuses, n'est-ce pas? Mais cette femme, elle n'a pas donné des excuses. Elle restait là devant Jésus, complètement honnête, complètement transparente, déshabillée de toutes ses prétentions, de tous ses prétextes. Et ici, nous constatons que la confession n'est pas simplement quelque chose d'oral. La confession peut s'exprimer aussi dans le silence. La confession est une condition du cœur. Et enfin, nous lisons, qu'elle appelle Seigneur. Donc je crois, surtout avec ce que Jésus a dit, que nous pourrons dire oui, elle a cru au Seigneur Jésus. Et à la fin de verset 11, nous voyons la grâce de Dieu. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne non plus, va et ne pêche plus. » Et souvent, cet verset a été utilisé pour dire, « Ah oui, l'adultère n'est pas aussi sérieuse. Oui, Jésus, il a laissé partir. Donc, il a dit, « Non, je ne condamne pas les adultères. » Mais ce n'est pas le cas. Ici, nous voyons Jésus regarde son cœur, sa foi, et en fait, il a dit, « Dieu te pardonne. » Nous trouvons ici la même vérité que Paul a écrite en Romains 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voilà comment Jésus a pu dire, « Je ne te condamne pas. » Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il lui disait, « Va et commence une nouvelle vie. » Nous trouvons les mêmes exhortations dans les Épîtres, encore en Romains. Paul a dit, « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité. » En 1 Jean chapitre 2, nous lisons, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » La parole de Dieu dit les mêmes choses aux croyants, « Ne péchez point, ne péchez plus. » La même instruction que Jésus a donnée à cette femme. Et elle écoutait ces paroles directement de la bouche de Jésus. Mais regardons aussi le prix cher du pardon. Et je crois que c'est la leçon principale de ce passage. Cette histoire déborde de pardon et de la grâce, n'est-ce pas? C'est tellement beau de voir cette histoire. La grâce de Dieu se répand dans cette histoire comme un parfum. Mais plongeons plus profond, parce que la question se pose, comment Jésus a-t-il pu pardonner cette femme? Comment a-t-il harmonisé la justice et le pardon? Comment a-t-il harmonisé la loi et la grâce? Ça, c'est la leçon ici dans cette histoire. C'est quoi exactement le pardon? Est-ce que c'est comme un parent qui dit à son enfant, il voit son enfant faire une bêtise et il dit, « Ah, mon petit, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » Le pardon consiste de deux parties, la justice et la grâce. Quelle est la définition de la justice? Tout le monde dans notre société, je crois ici en Suisse et aussi en France, tout le monde dit, nous voulons de la justice. Vous aussi, vous combien de vous sont pour la justice? On veut de la justice. Levez les mains. Vous êtes menteurs. Vraiment. En policier, en France, la limite de vitesse sur les autoroutes, c'est 130. Vous roulez à 150 avec vos Audi, les Mercedes, les voitures chères de la Suisse et tout. Vous roulez à 150. Vous entendez le klaxon et vous voyez les lumières. Les policiers. Ils viennent, monsieur, madame, rouler à 150, la limite de vitesse est 130. Combien de vous disaient, monsieur policier, je veux la justice, je demande la justice, que la justice soit faite. Monsieur, en fait, je n'ai pas roulé à 150, je roulais à 153. Et je demande de payer l'amende pour chaque kilomètre de plus. Je demande la justice. Je sais que vous faites ce que vous faites. Ou ce que vous allez faire. Vous allez demander, oui, monsieur, j'étais pressé, j'avais ma tête d'ailleurs, je ne pensais pas sur la vitesse. J'ai rendez-vous dans 5 minutes et j'étais un peu pressé. Je te demande de me pardonner cette fois-ci. Non, ce n'est pas 50. J'ai changé les pneus récemment et le tableau d'abord n'est pas exactement juste. L'aiguille n'était pas montée jusqu'à 150. Je pensais que j'ai roulé à 130, monsieur. Je te demande de me pardonner cette fois-ci. Vous ne voulez pas de la justice. Vous cherchez de la grâce, n'est-ce pas? La justice, la définition de la justice, c'est on reçoit ce qu'on mérite. On reçoit ce qu'on mérite. Et la définition de la grâce est un don non mérité. Je mérite une amende pour 153 km à l'heure, mais je demande la grâce, le pardon. Nous méritons la mort, le salaire qui mérite les péchés, c'est la mort. Qui ici veut la justice de Dieu dans sa vie? Qui ici cherche à obtenir ce qu'il mérite? Moi, je cherche la grâce, le pardon. Je sais ce que je mérite. Mais comment quelqu'un peut-il ne pas recevoir ce qu'il mérite et comment peut-il recevoir ce qu'il ne mérite pas? C'est un renversement du logique. Nous connaissons bien le passage en 1 Jean chapitre 9 qui a dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner. » Comment Jésus a-t-il pardonné cette femme qui mérite la mort? Comment Dieu pourrait-il nous pardonner? La Bible est claire, la pénalité du péché, c'est la mort. Cette femme a péché, elle méritait la mort. Alors cette femme, coupable d'adultère, digne de mort selon la parole de Dieu, Jésus a pu la pardonner parce qu'il allait payer sa dette. C'était lui qui allait subir la mort qu'elle méritait. C'était en vue de sa propre mort que Jésus a pu la laisser partir, pardonner. Le juge lui-même a payé la dette du criminel. Et nous aussi, nous avons péché, nous méritons la mort. Comment peut-il nous laisser partir, pardonner? Si nous nous trouvons face à face avec Jésus, comment pourrait-il dire, « Je ne te condamne non plus, va et ne péchez plus. » Parce que notre pénalité a été payée. Quelqu'un d'autre a été puni pour nos offenses. C'est Jésus qui a subi notre punition. La justice demande une punition. La justice est chère, le pardon est cher. et Christ s'est substitué pour nous sur la croix. Il a pris notre punition lui-même. Oui, le pardon a un prix, et n'oublions jamais qu'il coûte très cher le prix du pardon. C'est toujours la mort. Juste pour conclure quelques applications. La prochaine fois que vos enfants font une bêtise, ne dites pas « ce n'est pas grave, je te pardonne ». Demande qu'ils se confessent. Demande qu'ils demandent pardon. Un grand-papa d'un de mes amis a dit « on ne peut jamais s'excuser pour avoir offensé quelqu'un d'autre. Il faut demander pardon. » Nos enfants doivent connaître que dès leur bas âge, on ne peut pas s'excuser pour avoir fait un tort, fait du mal à quelqu'un d'autre. On doit demander pardon. Et vous, la prochaine fois qu'au travail, avec votre épouse, votre époux, la prochaine fois que vous faites du mal à quelqu'un d'autre, ne dites simplement « Ah, je m'excuse ». Dites « J'avais tort. Ce que j'ai fait était mal, je n'ai pas bien fait, et je te demande de me pardonner. » Je crois que vos collègues, votre époux, votre épouse, seront choqués. Tu me demandes de te pardonner? Et peut-être ça va ouvrir une possibilité de leur parler du pardon. C'est quoi le vrai pardon? Ici, nous voyons que Jésus a laissé partir cette femme. Il a dit il n'y a pas de condamnation. Mais ce n'est pas simplement en disant « je te pardonne ». C'était parce que Jésus était prêt à payer sa pénalité, sa punition, de le prendre sur lui. Encore, nous avons le contraste entre ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui l'ont rejeté, entre ceux qui partent pardonner et ceux qui se retirent en portant toujours le fardeau de leur péché. Cette femme est partie pardonner avec une nouvelle vie. Les pharisiennes se sont retirées, toujours portant leur péché. Et chers frères et chères sœurs, que face à la justice de Dieu, que nous puissions trouver la grâce de Dieu obtenue par une foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.